Avant 1914, la Palestine et Israël faisaient partie de l'Empire ottoman, un très vaste ensemble qui, au sommet de sa puissance, s'étendait de la péninsule arabique aux Balkans et englobait l'essentiel du Moyen-Orient. L'absence de frontières internes avait favorisé un important brassage de population. Pendant des siècles, des Juifs, des Arabes, en majorité musulmans, une importante minorité chrétienne, des Druzes et encore bien d'autres confessions se sont côtoyés dans une paix relative. Au début du XXe siècle, l'Empire ottoman, entré dans une phase de déclin tant sur le plan économique que politique, était devenu l'homme malade de l'Europe, comme on disait. Quand, en 1914, éclata la Première Guerre mondiale, il se retrouva dans le camp de l'Allemagne. Les dirigeants anglais et français y virent l'occasion de démanteler ce vieil empire et de se partager ses dépouilles. En mars 1916, ils signèrent les accords Sykes-Picot, du nom des négociateurs anglais et français. Ces textes prévoyaient que la zone constituée par le Liban et la Syrie actuelle reviendrait à la France, tandis que les Britanniques se verraient attribuer le contrôle de ce qui est aujourd'hui l'Irak et la Jordanie. Pour ce qui est de la Palestine, faute de pouvoir trancher, ils avaient décidé qu'elle serait placée sous contrôle international. Ces accords devaient rester secrets, mais ayant été signés à Moscou, sous le patronage du tsar, qui espérait bien, de son côté, obtenir quelques miettes. Les diplomates russes en avaient conservé un exemplaire que les bolcheviks rendirent public après leur arrivée au pouvoir en octobre 1917. En publiant ces traités, ils agirent en révolutionnaires. En rompant avec les méthodes de la diplomatie secrète, ils dévoilaient les véritables buts de guerre des puissances impérialistes et leurs manœuvres pour tromper les travailleurs et les peuples. Et les manœuvres furent nombreuses dans cette période et dans cette région du monde. En même temps qu'ils s'entendaient avec les diplomates français pour dépecer l'Empire ottoman, les dirigeants britanniques promirent cette région au shérif de la Mecque, Hussein, un représentant de la puissante famille arabe des Hachémites. Prétendant vouloir œuvrer à la libération des Arabes du joug des Turcs, ils s'engagèrent à créer un grand royaume devant regrouper la plus grande partie des provinces arabes de l'Empire ottoman. Ils l'aidèrent à constituer une armée, fournirent des armes, et l'un de leurs émissaires, connu sous le nom de Laurence d'Arabie, n'hésita pas à payer de sa personne en participant au combat à dos de chameau. Mais dans le même temps, ils promirent la Palestine une deuxième fois, et cette fois-ci au mouvement sioniste, qui ne représentait pourtant pas grand-chose dans cette région. Mais les diplomates britanniques savaient exactement ce qu'ils faisaient. Le fondateur du sionisme, le journaliste viennois Theodor Herzl, était d'origine juive, mais très intégré dans la société autrichienne de son époque, il ne s'en revendiquait pas spécialement. Jusqu'à ce qu'il eut à couvrir l'affaire Dreyfus en 1896. Les importantes manifestations antisémites auxquelles il assista alors et le fait que cela puisse survenir en France, dans l'un des pays les plus avancés, les plus éclairés d'Europe, l'amenèrent à formuler l'idée que la seule façon pour les Juifs d'échapper à l'antisémitisme était d'avoir leur propre État, un État juif. C'était le titre de l'ouvrage politique qu'il écrivit alors et qui devint le programme de l'Organisation sioniste mondiale créée en 1897. Ce mouvement nationaliste devait résoudre un problème qui tenait à la situation particulière des Juifs qui étaient dispersés dans le monde. Sur quel territoire construire un État juif ? La Palestine, cette terre qui, d'après la Bible, avait été promise par Dieu au peuple juif, fut évoqué dès la naissance du mouvement. Mais la majorité des sionistes n'étant pas particulièrement religieux, à l'image de Herzl lui-même, d'autres régions du monde, comme l'Argentine et l'Ouganda, furent envisagées. Un congrès trancha définitivement la question en 1903 en choisissant la Palestine. Les sionistes pouvaient au moins ainsi se réclamer de la tradition biblique. Dans une période où le monde était partagé entre quelques grandes puissances coloniales, Herzl chercha à obtenir le soutien de l'une d'entre elles.
il passa la fin de sa vie à rencontrer des ministres et des chefs d'État en vantant la façon dont le mouvement sioniste pouvait servir leurs intérêts. Le futur État juif en Palestine pourrait être, écrivait-il, je cite, « une partie du rempart de l'Europe contre l'Asie, un poste avancé de la civilisation s'opposant à la barbarie ». Dès ses origines, le sionisme se présentait donc comme un projet colonial. D'autant que la Palestine n'était pas une terre sans peuple pour un peuple sans terre, comme le proclamaient les sionistes. Elle était habitée, et habitée de longue date par des populations arabes. Pour résoudre ce problème, Herzl, avec le point de vue colonialiste qui le caractérisait, envisageait la possibilité d'un transfert de population, c'est-à-dire, pour employer le vocabulaire d'aujourd'hui, d'un nettoyage ethnique. En tout cas, l'organisation sioniste se donna rapidement les moyens de commencer à mettre en œuvre un transfert des terres. Elle créa un fonds national juif afin de rassembler les dons permettant d'acheter des terres en Palestine pour que des juifs puissent s'y installer. Ces parcelles étaient achetées à des grands propriétaires absentéistes résidant dans des villes loin de ces campagnes déshéritées et les paysans arabes se retrouvaient évincés sans avoir leur mot à dire. Une telle entreprise de colonisation ne pouvait que susciter l'hostilité des populations locales. Et très tôt, elles comprirent que le mouvement sioniste constituait une menace. En 1914, la communauté juive ne représentait qu'une très faible minorité, avec 80 000 juifs présents en Palestine sur une population totale de 750 000 personnes. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, les dirigeants britanniques n'avaient pas témoigné de sympathie particulière à l'égard du sionisme et ils n'avaient rien fait pour l'encourager. Leur attitude changea quand, au cours du conflit, ils comprirent qu'ils pourraient utiliser ce mouvement. Le 2 novembre 1917, le secrétaire au Foreign Office, l'équivalent du ministre des Affaires étrangères, Lord Balfour, adressa une lettre à un représentant du mouvement sioniste, Lord Rothschild, dans laquelle il lui faisait part d'une déclaration de sympathie envers les aspirations juives sionistes. Et il précisait, je cite, « Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif ». Par cette déclaration Balfour, comme on l'a appelée, les dirigeants britanniques promettaient une deuxième fois la Palestine, sachant parfaitement qu'il faisait naître un conflit entre juifs et arabes. Mais ils comptaient bien utiliser ces oppositions qu'ils contribuaient eux-mêmes à créer pour pouvoir mieux imposer leur contrôle sur la région. C'est une méthode qu'ils avaient déjà utilisée de nombreuses fois dans leurs colonies et ils avaient acquis un savoir-faire à toute épreuve. À la fin de la guerre, alors que le démantèlement de l'Empire ottoman vaincu était à l'ordre du jour, les dirigeants arabes espéraient bien que les promesses qui leur avaient été faites soient tenues. Les alliés en décidèrent autrement. Au lendemain d'une guerre au cours de laquelle il avait été question du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, on ne pouvait plus utiliser un vocabulaire trop colonial. La Société des Nations, ancêtre de l'ONU, créée après la Première Guerre mondiale, décida donc que la France et le Royaume-Uni se verraient accorder des mandats sur la région. Formule hypocrite destinée à présenter l'établissement d'un régime de protectorat comme une aide bienveillante. Il fut décidé que la Syrie serait séparée du Liban et que les deux seraient placés sous tutelle française. L'Irak et la Palestine passaient sous mandat anglais et une clause prévoyait l'application de la déclaration Balfour. Restait à l'imposer aux dirigeants arabes qui se sentirent floués. En juillet 1920, les troupes françaises occupèrent Damas en Syrie après l'avoir bombardée. Des émeutes éclatèrent en Palestine et en Irak. En guise de consolation et pour calmer un peu la situation, les dirigeants britanniques installèrent Faisal, un des fils d'Hussein, le shérif de la Mecque, sur le trône d'un royaume irakien. Et ils placèrent son frère Abdallah à la tête de ce qui allait devenir le royaume de Transjordanie, ce qui correspond à la Jordanie d'aujourd'hui. Refusant la création d'un grand royaume arabe qu'ils auraient eu plus de mal à contrôler, les puissances impérialistes ont imposé un découpage du Moyen-Orient, traçant des frontières qui sont encore celles des États actuels, en fonction de leurs calculs diplomatiques et militaires, et en méprisant totalement les aspirations des peuples. La Palestine se retrouvait donc sous mandat britannique. Une administration fut mise en place, composée très majoritairement de Britanniques, avec à sa tête un gouverneur général. Les autorités mandataires acceptèrent que les Juifs de Palestine se dotent de leurs propres institutions, avec un conseil exécutif désigné par une assemblée, elle-même élue par tous ceux qui s'étaient fait enregistrer comme juifs. En 1929, une agence juive mise en place par l'Organisation sioniste mondiale joua de fait le rôle de gouvernement de la population juive palestinienne. Jamais les populations arabes n'obtinrent la création d'institutions équivalentes. L'administration britannique aiguisait ainsi volontairement les oppositions entre juifs et arabes de façon à pouvoir se poser en arbitre. C'est dans ces conditions qu'une société juive complètement coupée de la société arabe commença à s'édifier. Ceux qui en furent les artisans étaient issus majoritairement d'Europe de l'Est, surtout de l'Empire russe, où existait un important mouvement ouvrier dont ils avaient subi l'influence. De ce fait, beaucoup se réclamaient du socialisme. Mais leur socialisme était limité aux Juifs et excluait totalement les populations arabes. La façon dont ont été développés les kibboutz, cette forme collective d'exploitation agricole, en est l'illustration. Au sein des kibboutz devait régner un esprit égalitaire qui était censé incarner un idéal socialiste. Il n'y avait pas de salaire, on partageait tout. Mais le véritable objectif de ces kibboutz était la conquête du pays. Les kibboutz s'installaient sur des terres achetées à des grands propriétaires absentéistes et enchassaient les paysans arabes qui y vivaient. En 1920, ces organisations sionistes socialistes créèrent un syndicat, la Histadrout, ce qui veut dire Confédération Générale des Travailleurs Juifs d'Eretz Israël, c'est-à-dire la terre d'Israël. Celui-ci se développa très rapidement. Dès 1923, il organisait près de la moitié de la population salariée juive de Palestine et jusqu'à 70% en 1927. Mais la Histadrout n'était pas qu'un syndicat. Elle avait en fait pour véritable objectif d'organiser une économie exclusivement juive, capable de se passer des populations arabes, voire de les évincer. La Histadrout organisa une caisse d'assurance maladie, des cantines, des bureaux de placement, une coopérative d'achat et de vente, une entreprise de construction et même une banque. Mais toutes ces organisations étaient exclusivement réservées aux Juifs. Et il fallait apprendre l'hébreu, cette langue de la Bible qui était tombée en désuétude et que les sionistes voulaient imposer comme la langue de la nouvelle nation juive. La Histadrout organisait des piquets pour s'opposer à l'emploi des travailleurs arabes dans des entreprises dirigées par des Juifs qui n'auraient pas compris d'eux-mêmes la nécessité de développer le travail juif, principal mot d'ordre du mouvement. Au-delà de ces piquets, la Histadrout organisa aussi une milice, la Haganah, ce qui veut dire la défense en hébreu. Ainsi, plus qu'un syndicat, la Histadrout constitua en fait l'embryon d'un appareil d'État. Mais au sein de la société que ces prétendus socialistes voulaient créer, les Arabes n'avaient aucune place. La grande majorité des mouvements sionistes se réclamant du sionisme s'unifièrent pour constituer en 1930 le Parti travailliste, le Mapai, avec à sa tête David Ben-Gourion, qui était aussi le dirigeant de la Histadrout depuis sa fondation. Rapidement, le Mapai parvint à prendre le contrôle des institutions juives de Palestine et en 1935, Ben-Gourion devint président de l'Agence juive. Parmi les courants issus du mouvement socialiste, la seule organisation qui rompit avec le sionisme et tenta de s'adresser aux masses arabes fut le Parti communiste palestinien. Fondé en 1920, il fut le premier parti communiste à se créer au Moyen-Orient. Il resta faible et ne dépassa jamais le millier d'adhérents. Ses membres devaient militer dans un contexte difficile, alors qu'un fossé de haine commençait à se creuser entre juifs et arabes. Majoritairement juifs, ces militants étaient en butte, dans leur milieu d'origine, à l'hostilité des sionistes, une hostilité qui pouvait être très brutale. Il devait en plus subir une répression particulièrement dure de la part des autorités britanniques. Ils étaient souvent arrêtés et parfois arbitrairement expulsés de Palestine. Alors, une politique cherchant à unir les travailleurs juifs et arabes dans une même organisation et dans une lutte commune, à la fois contre le colonialisme britannique et contre les classes féodales arabes, une telle politique était-elle possible ? Ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas le courage qui a manqué à ces militants qui tentèrent de la mettre en œuvre. Mais la politique que leur fit mener l'internationale communiste stalinisée à partir de la fin des années 1920 était aux antipodes de l'internationalisme qui aurait été nécessaire pour surmonter les obstacles auxquels ils avaient à faire face. Le Parti communiste fut en effet contraint d'adopter un cours opportuniste, d'abord à l'égard du nationalisme arabe, puis à l'égard du sionisme, à partir du moment où l'URSS rechercha l'alliance de la Grande-Bretagne. Ces politiques, variant en fonction des intérêts diplomatiques des dirigeants de la bureaucratie stalinienne, entraînèrent le départ de nombreux militants et conduisirent à plusieurs reprises à des scissions entre les secteurs arabes et juifs du parti. La montée des tensions déboucha, à partir de 1936, sur de véritables soulèvements populaires des masses arabes. Cette grande révolte arabe, comme on l'a appelée, commença en avril 1936 par des affrontements entre juifs et arabes. Et un mouvement de grève des travailleurs arabes commença à se répandre, impulsé par des comités locaux. Ceux qui les animaient revendiquaient la fin de l'immigration juive, mais aussi l'élection d'une assemblée représentative. Contestant l'occupation britannique, le mouvement avait un caractère anticolonial. Mais il exprimait aussi la révolte sociale des classes populaires arabes contre la misère, contre des conditions de vie qui s'étaient aggravées avec la crise économique depuis le début des années 1930. Dans les campagnes, des paysans s'armaient et constituaient des milices qui s'en prenaient à des colonies juives, mais aussi aux grands propriétaires terriens arabes. Ceux-ci les pressuraient et accaparaient une grande partie des récoltes par le biais des loyers qu'ils faisaient payer à leurs métayers ou par le biais des dettes que les paysans avaient contractées et qu'ils ne parvenaient pas à rembourser. Les classes privilégiées arabes avaient beaucoup de raisons de se sentir elles-mêmes menacées par cette révolte populaire explosive. Un haut comité arabe se constitua dès le début du mouvement pour tenter d'en prendre la tête. Il regroupait l'ensemble des partis nationalistes palestiniens qui étaient chacun liés à une famille différente de notables. À sa tête se trouvait le grand mufti de Jérusalem, un titre qui en faisait la plus haute autorité religieuse. Il était lui-même issu d'une des familles de notables les plus puissantes, les Husseinis. En appelant au boycott des commerces tenus par des juifs, ce haut comité voulait limiter la mobilisation au terrain de la lutte contre la présence juive, moins menaçant socialement pour les classes privilégiées arabes. Il joua aussi un rôle modérateur en appelant en octobre à la fin de la grève générale. Et la grève générale, en effet, prit fin, mais la mobilisation se poursuivit, prenant des formes insurrectionnelles. Alors, pour venir à bout de la révolte arabe, les autorités mandataires durent déployer un contingent de 30 000 soldats en Palestine. Ils se livrèrent à une véritable guerre, faisant régner la terreur. Plus de 20 000 maisons abritant les familles des insurgés furent dynamitées. Une partie de la vieille ville arabe de Jaffa fut ainsi détruite. Et des villages furent, eux, totalement rasés. Des avions furent utilisés pour bombarder les zones tenues par les insurgés. Près de 50 000 Palestiniens furent arrêtés et rassemblés dans 14 camps de détention. Et beaucoup, dont les membres du Haut Comité arabe, pourtant bien modérés, furent déportés dans les possessions coloniales britanniques et en particulier aux îles Seychelles, très très loin de Palestine. Le nombre de Palestiniens tués, blessés ou exilés représenta au total 10% de la population arabe. Si les dirigeants palestiniens tenaient à présenter la révolte arabe comme une lutte contre les juifs, de leur côté, les organisations sionistes adoptèrent la même logique nationaliste et aidèrent les Britanniques à réprimer les populations arabes. La Haganah reçut des armes pour cela. Des miliciens juifs furent formés aux techniques de combat par l'armée britannique et même intégrés dans des unités spécialement constituées pour réaliser des opérations de commando. Cette collaboration dura au point qu'en 1939, la police mandataire comptait près de 21 000 juifs, soit 5% de la population juive de Palestine. Cette période de soulèvement aurait-elle pu voir converger une lutte commune des juifs et des arabes contre la présence coloniale britannique? En tout cas, les politiques que menèrent les organisations sionistes et ceux qui se retrouvèrent à la tête de la révolte arabe ne le permirent pas. Et cette période marqua, au contraire, une étape importante dans l'évolution qui conduisit les deux peuples à s'affronter l'un contre l'autre, un piège dont ils ne devaient plus sortir. Les dirigeants britanniques ne firent preuve d'aucune gratitude à l'égard des sionistes pour leur aide contre le soulèvement arabe. Alors qu'on s'acheminait vers la Deuxième Guerre mondiale, ils cherchèrent à donner des gages aux nationalistes arabes pour tenter d'éviter que ceux-ci apportent leur soutien à l'Allemagne. En 1939, les autorités britanniques publièrent un livre blanc dans lequel, pour la première fois, ils déclarèrent vouloir, je cite, « créer les conditions qui permettront à l'État indépendant de Palestine, donc un État arabe, de s'établir au cours d'une période de 10 années ». Ils y affirmaient aussi leur volonté de limiter fortement l'immigration juive et les achats de terres par les sionistes. Avec le déclenchement de la guerre, loin d'être allégées, les mesures limitant l'immigration furent encore durcies. Les autorités mandataires décidèrent en septembre 1939 d'interdire l'entrée en Palestine aux réfugiés venant de pays ennemis ou de pays occupés par l'ennemi. Cela visait donc les juifs allemands et polonais, ceux qui avaient précisément le plus besoin de trouver un refuge. C'était particulièrement cynique, mais ils n'étaient pas les seuls à cette époque à avoir cette attitude. Au même moment, tous les pays occidentaux, y compris les États-Unis, adoptèrent des mesures de restriction de l'immigration, concernant aussi bien les juifs que tous les opposants au nazisme désespérément en quête d'un asile. Alors quand on évoque les responsabilités du capitalisme dans les drames d'aujourd'hui, il faut rappeler que c'est la crise de ce système qui a plongé l'humanité dans l'horreur de la Seconde Guerre mondiale et a conduit à la barbarie des camps d'extermination où 6 millions de Juifs trouvèrent la mort. Et il faut rappeler l'attitude des Alliés avant la guerre et au lendemain de la guerre, les rescapés des camps d'extermination qui refusaient de retourner dans les pays où ils vivaient avant la guerre parce que l'antisémitisme y avait été particulièrement virulent. Ces rescapés se retrouvèrent parqués dans d'autres camps, dans l'attente qu'un pays veuille bien les accepter. Et ils pouvaient attendre longtemps, parce que obtenir un visa d'entrée n'était pas beaucoup plus facile qu'avant la guerre. Ces personnes déplacées, comme les appelaient les Alliés, personnes déplacées, étaient plus de 100 000. Et un pays comme les États-Unis, entre 1945 et 1948, n'autorisèrent que 25 000 juifs à entrer sur leur territoire. Alors on peut comprendre que dans ce contexte, et après avoir survécu au camp d'extermination, ces dizaines de milliers de juifs aient espéré trouver en Palestine un endroit où refaire leur vie. Le sionisme était resté un mouvement ultra-minoritaire parmi les juifs d'Europe qui n'avaient aucune intention d'aller s'installer dans cette région pauvre où ils n'étaient pas les bienvenus. Il fallut la barbarie des persécutions nazies et des camps d'extermination et l'indifférence témoignée par les États occidentaux se prétendant démocratiques pour que des dizaines de milliers de juifs se tournent en désespoir de cause vers les organisations sionistes. Celles-ci leur promettaient que la seule façon de ne plus revivre de telles horreurs consistait à créer un État juif qui les protégerait. Alors cette aspiration, elle était légitime, mais elle n'impliquait pas forcément qu'elle se réalise contre les populations arabes, en les spoliant de leurs terres et de leur droit à vivre en Palestine, qui était encore plus légitime du fait de l'ancienneté de leur présence. En fait, il y avait la place sur ces territoires palestiniens pour que les deux peuples puissent vivre en bonne entente, à la condition que cela se fasse dans le respect des droits de chacun. Cela aurait pu être l'occasion d'un combat mené en commun contre le colonialisme britannique, qui venait tout de même de montrer à quel point il méprisait autant le sort des Juifs que celui des Arabes. Mais la politique des organisations sionistes fut dans la continuité de celle qu'elles avaient menée durant la période mandataire et au moment de la révolte arabe des années 1930. Grâce aux immigrants qui arrivaient par milliers d'Europe, les mouvements sionistes trouvèrent des troupes pour imposer la création d'un État juif contre l'impérialisme britannique, mais aussi contre les populations arabes. Les dirigeants britanniques avaient bien l'intention de rester en Palestine au lendemain de la guerre. Ils augmentèrent leur présence militaire qui fut portée à 100 000 soldats et ils tentèrent de s'opposer à l'arrivée des Juifs d'Europe. Les sionistes y répondirent en mettant sur pied des réseaux clandestins d'acheminement des Juifs vers la Palestine. Ceux qui étaient arrêtés furent parqués dans des camps, encore des camps, sur l'île de Chypre avant d'être envoyés en Europe. Les organisations sionistes engagèrent des actions militaires contre l'armée britannique, ce qu'on appellerait aujourd'hui des actions terroristes, sans lesquelles l'État d'Israël n'aurait pas été créé. La Haganah constituait une véritable armée que les Britanniques avaient eux-mêmes contribué à former militairement. Une organisation d'extrême droite, l'Irgun, enlevait des soldats britanniques, les tuait et piégeait leurs cadavres avec des explosifs de façon à faire encore plus de victimes. L'Irgun alla jusqu'à faire sauter entièrement l'hôtel du roi David à Jérusalem, où se trouvait le quartier général des forces britanniques. Celui qui dirigeait la branche militaire de l'Irgun s'appelait Menachem Begin, et il allait devenir plus tard Premier ministre d'Israël. On en reparlera. Les dirigeants des organisations sionistes comptaient aussi sur leur action diplomatique, recherchant en particulier l'appui des États-Unis. Alors, face à ces pressions internationales, et alors qu'il était incapable de mettre fin aux troubles en Palestine, le gouvernement britannique se résigna à retirer ses troupes, confiant à l'ONU le soin de décider du sort de la région. Le 29 novembre 1947, l'ONU vota un plan de partage de la Palestine, prévoyant la création d'un État juif et d'un État arabe. C'était une première esquisse d'une solution à deux États, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Les Juifs, qui ne représentaient qu'un tiers de la population et occupaient à peine plus de 10% du territoire palestinien, se voyaient accorder le contrôle de 55% de la Palestine. Ce plan fut voté par les États-Unis, mais aussi par l'Union soviétique, les deux superpuissances partageant alors la même volonté de réduire l'influence britannique au Moyen-Orient. Les États arabes s'opposèrent à toute idée de partage et rejetèrent ce plan qui, en plus, avantageait fortement les populations juives. Les dirigeants de l'agence juive, eux, déclarèrent qu'ils acceptaient le plan de l'ONU. Mais en réalité, ils n'entendaient pas se contenter des frontières proposées et ils se fixèrent l'objectif d'occuper le plus de territoire possible. Ils se fixèrent aussi l'objectif de chasser le plus d'Arabes possible, afin que les Juifs soient majoritaires dans le futur État juif. Pour procéder à ce nettoyage ethnique, un plan fut soigneusement élaboré, le plan d'Alet, dont la mise en œuvre commença à partir de décembre 1947, avant même le départ des Britanniques. Quelques mois plus tard, en avril 1948, les milices sionistes commencèrent à mener de véritables campagnes militaires, dynamitant systématiquement des villages situés sur certains axes, comme entre Tel Aviv et Jérusalem. 200 villages arabes furent ainsi vidés de leur population. Les Britanniques étaient toujours présents. Les miliciens de l'Irgun se livrèrent au massacre de 254 habitants du village de Dir Yassin, tuant hommes, femmes et enfants. Leur objectif était de terroriser les Arabes de Palestine afin de les amener à fuir à l'annonce de l'arrivée des miliciens de la Haganah. Des villes comme Haïfa, Tibériade, Jaffa et Acre perdirent alors plus de 90% de leurs habitants arabes. Le 14 mai 1948, quelques heures avant le départ des troupes britanniques et sans attendre la période de transition prévue par le plan de l'ONU, Ben Gourion proclama la naissance de l'État d'Israël. Dès le lendemain, les armées de plusieurs États arabes entraient en Palestine. La première guerre israélo-arabe commençait. Les armées arabes furent vaincues partout. Elles n'avaient ni l'expérience, ni le moral, ni la détermination des troupes mobilisées par l'État d'Israël naissant. Elles étaient même moins nombreuses, rassemblant au maximum 25 000 soldats face à une armée israélienne qui, fin mai 1948, en alignait 35 000, puis jusqu'à 100 000 fin décembre 1948. Enfin, l'armée israélienne bénéficia de la livraison d'armes et d'équipements modernes en provenance de Tchécoslovaquie, traduction concrète du soutien soviétique, ce qui compta beaucoup face aux armées arabes sous-équipées. La guerre prit fin en juillet 1949, après la signature d'une série d'armistices, mais aucun accord de paix ne fut signé par la suite. Les chefs d'État arabes, vis-à-vis de leurs opinions publiques, ne tenaient pas à reconnaître officiellement l'existence d'Israël. Ils continuèrent de se déclarer en faveur d'une Palestine arabe indépendante, mais en réalité, ils s'accommodèrent de la nouvelle situation. Ils se partagèrent des territoires qui, selon le plan de l'ONU, devaient constituer l'État palestinien. Le roi Abdallah de Transjordanie annexa la Cisjordanie. L'Égypte, de son côté, prit le contrôle de la bande de Gaza, y établissant une administration sans toutefois officiellement l'intégrer à ses frontières. Ainsi, il ne restait rien de l'État arabe dont l'ONU avait voté la création. À l'issue de la guerre, l'État d'Israël contrôlait 78% du territoire de l'ancienne Palestine et la partie ouest de Jérusalem. Plus de 700 000 Palestiniens avaient été expulsés de leurs terres, ce que les Palestiniens appellent la Nakba, la catastrophe en arabe. Quelques 370 villages palestiniens reçurent des noms israéliens pour effacer complètement la trace des précédents occupants. Les Palestiniens chassés trouvèrent refuge dans les pays voisins. En 1950, la Jordanie, le Liban et la Syrie accueillaient près de 300 000 personnes dans 35 ans. Ces camps se présentaient au début comme une succession interminable de grandes tentes. Quand la perspective d'un retour s'éloigna, des constructions en dur remplacèrent progressivement les toiles. Ces camps existent toujours aujourd'hui, constituant de véritables petites villes avec des milliers, parfois des dizaines de milliers d'habitants. Dans celui de Jénine, dont il est beaucoup question dans l'actualité aujourd'hui, en Cisjordanie, vivent plus de 15 000 personnes. Le plus grand de ces camps serait celui d'Aïn el-Elwe, prononciation n'est pas... voilà, au Liban, qui abrite plus de 54 000 réfugiés enregistrés, mais certainement plus de 100 000 en réalité aujourd'hui. Alors, le nouvel État israélien accueillit entre 1948 et 1951 plus de 550 000 immigrants. Les premiers vinrent d'Europe, on les appelait les Juifs ashkénazes. Ils furent suivis par des Juifs provenant du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, les Séfarades. Aujourd'hui, on utilise plutôt le terme de Misrarim. Mais les Juifs qui venaient ainsi des pays arabes n'allaient pas être beaucoup mieux considérés que les Arabes d'Israël. Ils étaient Juifs, et cela fait une différence par rapport aux Arabes palestiniens, on en reparlera, mais ils allaient constituer les couches les plus pauvres de la société israélienne, occupant les emplois d'ouvriers les moins qualifiés et les moins bien payés. Car les travaillistes qui se retrouvaient à la tête d'Israël avaient en effet créé un État comme les autres, avec ses classes sociales, fondées comme les autres sur l'exploitation. Ces militants qui se réclamaient du socialisme n'ont pas bâti une société socialiste, mais ils n'ont même pas été capables de fonder ne serait-ce qu'une république, une république laïque ressemblant à celle qui existait dans les pays les plus développés. Les travaillistes au pouvoir ont créé en effet un État donnant une place centrale à la religion. Cherchant à obtenir le soutien des rabbins et des religieux, le premier ministre travailliste Ben Gurion renonça à doter Israël d'une constitution, car pour les religieux juifs, le seul texte de référence ne peut être que la Bible. Donc, pas de constitution en Israël. Ben Gurion ne se contenta pas de cette décision symbolique. Il accorda aux religieux des pouvoirs considérables, en laissant aux tribunaux rabbiniques la gestion de l'état civil, des mariages, des divorces et de toutes les affaires familiales. C'est ainsi qu'encore aujourd'hui, les mariages de couples mixtes entre juifs et non-juifs ne sont pas possibles en Israël. Le seul recours est de se marier à l'étranger, mais avec comme conséquence que les enfants peuvent être considérés comme illégitimes. Le divorce n'est pas non plus reconnu, et seul un mari a le droit de rompre le mariage en répudiant sa femme. Aujourd'hui encore, des couples qui n'adhèrent pas du tout à ces pratiques d'un autre temps sont obligés d'y avoir recours pour se séparer. Mais pour cela aussi, il faut passer devant des rabbins pour se justifier. Depuis 1948, les rabbins organisent toute la vie sociale. Le jour de repos hebdomadaire est le samedi, car c'est le jour du Shabbat, où d'après les prescriptions religieuses, aucune activité n'est possible. Et jusqu'à aujourd'hui, les plus religieux continuent de batailler pour que toute la vie sociale s'arrête ce jour-là en Israël, transport, cinéma, restaurant, etc. Le système éducatif comprend un réseau d'écoles laïques, mais aussi un autre qui regroupe les écoles religieuses, et encore un autre qui regroupe les écoles ultra-orthodoxes. Toutes ces écoles bénéficient du financement de l'État et de toute façon, même dans les écoles laïques, les cours de religion ont été rendus obligatoires. Aucun juif ne peut éviter d'avoir affaire aux institutions religieuses. Mais reste à résoudre l'épineux problème de déterminer qui est juif. C'est d'autant plus important que selon la loi du retour, votée en 1950, tout juif né à Paris, à New York ou ailleurs, désirant vivre en Israël, faire son aliya, pour reprendre le terme utilisé par les sionistes et qui provient du vocabulaire religieux, eh bien, tout juif peut acquérir la citoyenneté israélienne et obtenir ainsi plus de droits que des Palestiniens dont la famille y vit depuis plusieurs générations. Qui peut donc déterminer qui est juif ? Ben, les rabbins, bien sûr. Et comme il y a beaucoup de rabbins, qu'il y a un grand rabbin pour les Ashkénazes et un autre pour les séfarades, eh bien, les débats peuvent durer longtemps. Et c'est ainsi que les juifs éthiopiens, les falachas, durent attendre 1975 et de longues années de débats pour que leur judéité soit reconnue officiellement. Ce qui n'empêche pas qu'aujourd'hui, en tant que noirs, ils sont en butte au racisme et sont victimes des mêmes discriminations que les arabes et les autres immigrés d'Afrique. Car un pays qui s'attache à distinguer les juifs et les autres, qui plus est dans une situation de guerre, est inévitablement gangréné par le racisme. Enfin, les Arabes, qui n'avaient pas fui au moment de la création d'Israël, ils restèrent sous un statut militaire jusqu'en 1966. Ce statut les faisait dépendre d'un gouverneur militaire, auquel ils devaient demander un laissez-passer pour leur déplacement, et qui pouvait aussi confisquer leurs biens et leurs terres. Après qu'il eut été mis fin à ce régime spécial, les Arabes palestiniens ne purent pas pour autant bénéficier des mêmes droits que les Juifs. En effet, en Israël, la loi distingue parmi les citoyens israéliens des nationalités différentes, juifs, druzes, chrétiens, arabes, auxquels sont reconnus différents droits, seuls les Juifs étant de ce point de vue des citoyens à part entière. Et considérés comme de potentiels ennemis de l'intérieur, les Arabes israéliens ne peuvent pas non plus faire leur service militaire, ce qui les prive de l'accès à certains avantages. Alors oui, Israël est bien un État juif. Un État juif au sens théocratique du terme, où la religion tient une place aussi importante qu'en Arabie saoudite, avec tout le système de ségrégation qui en découle. Mais si le régime saoudien a été créé par des chefs de famille bédouines qui s'étaient toujours réclamés de l'islam, l'État israélien, lui, a été créé par des militants qui se réclamaient du socialisme et dont beaucoup étaient athées. Mais les dirigeants travaillistes étaient d'abord et avant tout des nationalistes ayant fait le choix de s'allier aux forces les plus réactionnaires au nom de l'Union nationale. Ils ont ainsi renforcé des courants religieux de droite et d'extrême droite qui par la suite, on le verra, allait être capable de les évincer du pouvoir et de jouer un rôle de plus en plus important en Israël. Les dirigeants travaillistes firent aussi un autre choix. Ils firent aussi très consciemment le choix de devenir les gendarmes de l'impérialisme dans la région pour en obtenir l'appui face aux États arabes. Après la Deuxième Guerre mondiale, Dans tout le Moyen-Orient, le mécontentement populaire s'exprimait alors contre l'impérialisme et les régimes qui lui étaient liés. En Égypte, en 1952, la monarchie pro-anglaise était renversée par un groupe d'officiers nationalistes. Parmi eux, celui qui finit par s'imposer à la tête du nouveau régime, Gamal Abdel Nasser, nationalisa en juillet 1956 le canal de Suez, contrôlé jusque-là par la France et le Royaume-Uni. Cette annonce fut accueillie avec enthousiasme par la population égyptienne. Beaucoup moins, on l'imagine, par les dirigeants britanniques et français. Ceux-ci, le conservateur Anthony Eden pour les Britanniques et le socialiste Guy Mollet pour les Français, décidèrent d'organiser une intervention militaire afin de reprendre le contrôle du canal, voire de renverser Nasser. Ils reçurent pour cela les offres de service du Premier ministre israélien Ben Gourion. Le 29 octobre 1956, déclarant craindre pour sa sécurité, Israël lançait une offensive contre l'Égypte. Ses troupes traversèrent le désert du Sinaï et foncèrent vers le canal. Sous prétexte de s'interposer, un corps expéditionnaire franco-britannique était parachuté le 5 novembre dans la zone du canal. Tout semblait devoir bien se dérouler. L'opération mousquetaire, comme elle s'appelait, se présentait comme un succès. Et pourtant, dès le lendemain, il était clair que les trois mousquetaires étaient tombés sur un os et qu'ils avaient perdu la partie. En effet, la réaction des deux superpuissances américaines et soviétiques fut immédiate. L'une après l'autre, elles exigèrent la fin de l'intervention militaire. Les gouvernements français et britanniques durent se plier à leurs injonctions et rembarquer leurs soldats. L'impérialisme américain voulait ainsi démontrer à ses alliés, mais néanmoins rivaux, que dorénavant, c'était lui et lui seul qui décidait des destinées de la région et de celles des gouvernements en place. Ben Gourion, paraît-il, avait espéré pouvoir conserver les territoires conquis. Eh bien, cela ne fut pas possible cette fois-ci. L'armée israélienne les évacua et l'Égypte reprit possession du désert du Sinaï. Défait militairement, Nasser sortit pourtant renforcé politiquement de cette épreuve de force. Elle fit de lui, aux yeux des masses arabes, le champion de la lutte contre la domination impérialiste et sa popularité fut énorme dans les années qui suivirent. Nasser était un dirigeant nationaliste qui cherchait à desserrer l'étreinte de l'impérialisme dans le seul but de servir les intérêts des classes dirigeantes égyptiennes. D'autres régimes dans le monde arabe, notamment en Syrie et en Irak, tentèrent de suivre la même voie. Face à eux, face à ces États arabes, les dirigeants de Washington purent se convaincre, après l'aventure de Suez, qu'ils pourraient utiliser Israël pour défendre leurs intérêts contre les États arabes. Le gouvernement israélien avait démontré qu'il y était prêt et qu'il était capable de mobiliser sa population dans une guerre contre un État arabe en la présentant comme nécessaire à la survie d'Israël. Il fallut encore quelques années aux dirigeants américains pour se décider à apporter à Israël un soutien inconditionnel, mais le tournant décisif et définitif, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, eut lieu en juin 1967. Cette année-là, prenant prétexte de l'un des épisodes de tension qui survenaient régulièrement avec la Syrie et l'Égypte, l'armée israélienne déclencha une offensive éclair et remporta une victoire écrasante en moins d'une semaine, d'où le nom qui lui est resté de guerre des six jours. Les États arabes en sortirent très affaiblis, ce qui ne pouvait que satisfaire et réjouir les dirigeants américains. Donc fort du soutien américain, très satisfait de voir affaiblis ainsi les États arabes, l'État israélien put adopter alors une attitude intransigeante, décidant de conserver le contrôle des territoires conquis. La partie orientale de Jérusalem fut annexée et la ville réunifiée devint la capitale d'Israël. Le Golan, ce plateau en hauteur situé à la frontière de la Syrie, fut occupé avant d'être annexé quelques années plus tard, en 1981. Les autres territoires occupés, la Cisjordanie et Gaza, ne furent pas annexés. Officiellement, les dirigeants israéliens affirmaient vouloir en faire une monnaie d'échange pour de futures négociations de paix. Mais ce n'était pas la seule raison. Après la guerre des six jours, plus de 300 000 Palestiniens de Cisjordanie s'enfuirent vers la Jordanie, notamment ceux dont les villages ou les camps de réfugiés furent détruits. mais à la différence de ce qui s'était passé en 1948. La majorité des habitants des territoires conquis en 1967 restèrent, soit plus d'un million de personnes. Annexer ces territoires aurait donc augmenté fortement la proportion de citoyens non-juifs en Israël, ce que le gouvernement israélien ne pouvait absolument pas envisager. Une administration des territoires occupés fut donc mise en place sous la direction de l'armée. Très rapidement, les gouvernements travaillistes de l'époque commencèrent à encourager la création de colonies juives pour renforcer et pérenniser leur présence. Ce mouvement de colonisation allait jouer dans les années à venir un rôle considérable dans l'évolution de plus en plus à droite de l'ensemble de la société israélienne. La guerre des six jours eut aussi beaucoup de conséquences politiques pour les Palestiniens. Elle avait entraîné un important discrédit de Nasser et de tous les chefs d'État arabes parmi les masses populaires du Moyen-Orient. C'était particulièrement vrai pour la jeune génération palestinienne qui avait grandi dans les camps après 1948. Comme toute leur famille, ces jeunes avaient connu des conditions de vie très difficiles, mais ils avaient pu bénéficier d'une éducation, d'une formation scolaire. En effet, l'ONU avait créé une agence pour s'occuper spécialement des réfugiés palestiniens, l'UNRWA, et celle-ci avait ouvert des écoles dans tous les camps. De ce fait, le taux de scolarisation des Palestiniens était le plus élevé de tout le Moyen-Orient, alors qu'ils étaient traités comme des parias dans les pays où ils vivaient. Ces écoles n'étaient pas religieuses, et en plus, elles étaient mixtes, ce qui était exceptionnel pour l'époque. Ainsi, ces femmes et ces hommes se retrouvaient privés de toute perspective, prisonniers de camps de réfugiés, mais ils avaient reçu l'éducation pour en avoir une conscience aiguë et comprendre ce qui en était la cause. Toutes les conditions étaient réunies pour forger une génération de révoltés, voire de révolutionnaires. Des dizaines de milliers de jeunes Palestiniens s'engagèrent dans la lutte, déterminés à combattre et à risquer leur vie. Ils voulaient lutter pour leurs droits en tant que Palestiniens, mais beaucoup aussi se réclamaient d'une révolution qui aurait englobé tout le monde arabe. Devenant des fédaïnes, comme on les appelait, ce qui veut dire des combattants prêts au sacrifice, ils rejoignirent les organisations palestiniennes et les milices armées qu'elles avaient constituées. Tous les mouvements palestiniens étaient regroupés au sein de l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, constituée en 1964. Au départ, l'OLP était une émanation des États arabes et en particulier de l'Égypte. Après la défaite de 1967, qui avait montré la faillite de ces États, certains groupes palestiniens décidèrent de mener eux-mêmes la lutte armée avec leurs propres moyens. Ils constituèrent des commandos qui pénétraient en Israël pour y commettre des attentats. En mars 1968, des fédaïnes du Fatah, le mouvement créé par Yasser Arafat, furent capables de mettre en échec des forces israéliennes supérieures en nombre qui avaient lancé une attaque sur le village jordanien de Karameh. Cette bataille de Karameh donna une aura particulière au Fatah, lui permettant de renforcer son influence au sein de l'OLP, au point qu'Arafat parvint à en prendre la tête en 1969. Les masses arabes regardaient alors du côté des Palestiniens et admiraient le courage et la combativité de ces fédaïnes qui constituaient un exemple. Dans cette période d'ébullition et de montée des contestations, les Palestiniens constituaient un ferment révolutionnaire. Et même sans que leur direction le cherche spécialement, ils éveillaient les espoirs des exploités du monde arabe qui se reconnaissaient dans leur lutte. Dans les années 1970, les Palestiniens étaient dans une situation qui aurait pu en faire l'avant-garde d'une révolution dont l'objectif aurait pu être de mettre fin à la mainmise de l'impérialisme sur la région et qui, en s'étendant au Moyen-Orient, aurait pu balayer les classes dominantes arabes et leurs régimes dictatoriaux et corrompus. La dispersion des Palestiniens dans de nombreux pays leur donnait la possibilité d'impulser ce combat. Mais pour cela, il aurait fallu qu'une organisation ait la volonté de prendre la tête de ce combat, du combat des masses arabes, avec un tel programme. Mais la politique de l'OLP ne consistait pas du tout a tenté d'exploiter ses possibilités révolutionnaires, bien au contraire. Arafat était certes un combattant qui avait dirigé les opérations militaires à Karamé, mais c'était un petit bourgeois nationaliste et la lutte armée qu'il prônait ne visait pas du tout à renverser l'impérialisme, ni même à bouleverser l'ordre social et politique du Moyen-Orient. Il limitait son objectif à la création d'un État pouvant représenter la bourgeoisie palestinienne aux côtés des autres bourgeoisies arabes, avec son drapeau et son appareil administratif et militaire qui auraient existé dans le cadre de l'ordre impérialiste et de ses frontières étatiques. L'OLP revendiquait la création de cet État sur l'ensemble du territoire occupé par Israël. Mais que devenaient les Juifs israéliens dans un tel État ? D'après la charte du mouvement, les seuls qui auraient trouvé une place étaient les Juifs qui vivaient normalement en Palestine avant l'invasion sioniste. À quand fallait-il remonter ? Et que devenaient les autres ? Dans leur logique nationaliste, les dirigeants palestiniens refusaient de reconnaître le droit des Juifs vivant désormais en Palestine à disposer eux aussi d'une existence nationale. Ils contribuaient ainsi à renforcer les gouvernements israéliens qui, prétendant que les Palestiniens voulaient rejeter les Juifs à la mer, présentaient leur politique guerrière comme la seule réponse possible face à une telle menace. En outre, la lutte armée prônée par Arafat consistait à organiser des attaques de soldats israéliens, mais aussi des attentats, des mitraillages de bus et des prises d'otages, parfois dans des écoles. Ces actions ne pouvaient que renforcer encore le réflexe d'union nationale de la population israélienne derrière son gouvernement. Mais ce n'était pas la préoccupation d'Arafat, qui était conscient de tout cela, et aussi du fait que des commandos palestiniens ne pourraient pas suffire à vaincre l'armée israélienne. En organisant des actions armées, Arafat cherchait à obtenir une reconnaissance des États arabes et leur appui diplomatique sur la scène internationale. Au-delà, son objectif était d'être reconnu par les grandes puissances, qu'il voulait amener à accepter la création d'un État palestinien. Les actions menées par des commandos présentaient aussi un autre intérêt politique. Les conditions de clandestinité du fait de la répression israélienne permettaient de justifier la mise sur pied d'un appareil militaire, loin du contrôle des masses palestiniennes elles-mêmes. Et ce n'était pas l'aspect le moins important aux yeux d'Arafat, qui posait ainsi les bases d'un futur appareil d'État qui aurait été capable de régner sur sa propre population et éventuellement de la réprimer. Au sein de l'OLP, certaines organisations se réclamaient du marxisme, comme le Front de libération de la Palestine de Georges Habash et le Front démocratique de libération de la Palestine de Naïef Awatmeh, qui était une scission du précédent groupe, mais tout en se prétendant marxistes. Ces groupes ne considéraient pas du tout que les travailleurs avaient un rôle à jouer en tant que classe dans leur combat, et surtout pas un rôle dirigeant. Ils restaient sur le terrain exclusif de la lutte contre Israël, en se livrant à une surenchère dans l'organisation d'attentats ou de prises d'otages très médiatiques. Ainsi, le FPLP, le Front Populaire de Libération de la Palestine, créa une unité spécialisée dans le détournement d'avions. Il semblait plus radical, mais il ne proposait pas une politique réellement différente de celle du Fatah d'Arafat, et tout comme lui, son objectif était de tenter de s'imposer dans le jeu diplomatique en recherchant le soutien des États arabes. Mais ces États arabes se révélèrent être des ennemis capables de faire preuve de la même férocité contre les Palestiniens que l'État israélien. Ils se méfiaient, en effet, ces chefs d'État arabes, de ces fédaïnes appartenant à des organisations et des milices qui rejetaient le contrôle des autorités locales et n'hésitaient pas à les défier, indépendamment de la politique des dirigeants de l'OLP. Et même malgré leur politique consistant à rechercher l'alliance des États arabes, ces fédaïnes palestiniens représentaient un mauvais exemple pour les peuples, une menace que ces chefs d'État arabes cherchèrent à réduire par tous les moyens. C'est en Jordanie que cela se produisit pour la première fois. Dans ce pays, les Palestiniens représentaient la moitié de la population. Certains avaient même fini par occuper des responsabilités au sein de l'appareil d'État. Les milices palestiniennes comptaient 40 000 fédaïnes et elles n'hésitaient pas à défier ouvertement les autorités jordaniennes, face auxquelles elles se comportaient de plus en plus comme un pouvoir indépendant, voire concurrent. Les militants palestiniens n'avaient en effet aucune raison de respecter le roi de Jordanie, Hussein, héritier de la famille des Hachémites qui tenait son pouvoir des Britanniques et dont le régime s'appuyait sur des structures féodales. Décidé à démanteler les organisations de fédaïnes, Hussein lança son armée contre les camps palestiniens le 12 septembre 1970, utilisant des blindés et l'aviation. Malgré sa supériorité militaire, elle mit plusieurs jours pour venir à bout de la résistance des fédaïnes. Mais ceux-ci étaient laissés livrés à eux-mêmes par la direction de l'OLP qui cherchait à temporiser. L'armée jordanienne désarma les combattants palestiniens et se livra à des massacres pour en inciter le maximum à fuir vers un autre pays. Il y eut au total plus de 5000 victimes. Ces massacres de septembre noir, comme on les a appelés, n'empêchèrent pas Arafat de participer le 27 septembre à une réunion de réconciliation organisée par Nasser la veille de sa mort. Alors que des combats étaient encore en cours, Arafat serra spectaculairement la main de Hussein, comme si tout cela n'avait été en quelque sorte qu'un simple malentendu, payé tout de même par des milliers de morts du côté des Palestiniens. Par ce geste et par toute l'attitude qu'il avait eue durant ces événements, Arafat voulait démontrer à tous les chefs d'État arabes qu'il était un dirigeant fiable, responsable et qu'il n'entendait pas mettre en danger leur pouvoir, quel que soit le prix à payer pour son mouvement. La majorité des combattants palestiniens de Jordanie se réfugièrent au Liban et l'OLP installa son quartier général dans la capitale à Beyrouth. Et c'est dans ce pays que se joua un nouvel acte décisif du mouvement des fédaïnes. Les Palestiniens se retrouvèrent au cœur de la guerre civile qui éclata en 1975. Dans ses débuts, elle opposa la fraction la plus réactionnaire des couches privilégiées chrétiennes, les phalangistes des milices d'extrême droite, aux masses les plus pauvres, parmi lesquelles se trouvaient les Palestiniens. Mais Arafat refusa d'assumer politiquement ce combat. En juin 1975, il déclara que le véritable champ de bataille se trouvait en Palestine et que ce qui se passait au Liban était une bataille marginale qui détournait la révolution palestinienne de son véritable chemin. Mais malgré tous les efforts d'Arafat, le Liban devint un champ de bataille pour l'OLP, car elle ne pouvait pas se tenir à l'écart. Un champ de bataille où elle se retrouva associée à une coalition dite des forces palestino-progressistes et un champ de bataille où elle eut à affronter un État arabe, la Syrie, qui apparaissait pourtant jusque-là comme l'un des plus engagés en faveur de la cause palestinienne. Quand en juin 1976, l'armée syrienne entra au Liban, elle apporta son soutien aux milices chrétiennes d'extrême droite à un moment où celle-ci semblait en mauvaise passe. Et elle empêcha les Palestiniens et leurs alliés de l'emporter. Les dirigeants syriens cherchaient ainsi à faire prévaloir leurs propres intérêts au Liban. Mais en jouant le rôle de gendarme garant de la stabilité régionale, capable de mettre au pas les Palestiniens, la Syrie faisait aussi un geste en direction des puissances impérialistes, se posant en interlocuteur responsable et incontournable. Après la Syrie, ce fut Israël qui acheva de détruire les forces de l'OLP au Liban. En juin 1982, plus de 100 000 soldats israéliens lancèrent une offensive de grande ampleur qui les conduisit jusqu'à Beyrouth. L'objectif proclamé était de détruire complètement les capacités militaires de l'OLP. La capitale libanaise fut assiégée et bombardée jour et nuit. Il y eut près de 30 000 victimes. À la suite d'un accord conclu sous le patronage d'un émissaire américain, Arafat parvint à quitter Beyrouth et trouva refuge à Tunis. Mais il ne restait plus rien au Liban de la force militaire de l'OLP. 15 000 fédaïnes furent évacués, mais ils avaient dû accepter d'être désarmés avant d'être dispersés dans tout le Moyen-Orient. Après le départ des combattants, alors que les Palestiniens n'étaient plus en mesure de se défendre, des milices chrétiennes d'extrême droite entrèrent dans les camps de Sabra et Shatila, situés dans la banlieue de Beyrouth, et elles s'y livrèrent à des massacres pendant deux jours, du 16 au 18 septembre 1982. Cela se déroula avec la complicité des militaires israéliens, qui laissèrent les miliciens chrétiens franchir leur ligne et qui allèrent jusqu'à éclairer les camps la nuit pour que les massacres puissent continuer. les Palestiniens recensèrent plus de 3000 victimes, en majorité des femmes et des enfants.
Le gouvernement israélien était alors dirigé par Begin, l'ancien terroriste de l'Irgun, et il avait pour ministre de la Défense l'ancien général Ariel Sharon, qui fut alors surnommé le boucher de Beyrouth. Ils étaient parvenus à expulser les combattants de l'OLP du Liban. Mais ils avaient ainsi ouvert la voie au mouvement islamiste intégriste du Hezbollah, le Parti de Dieu, créé en 1982, au moment de l'invasion israélienne. Ce parti intégriste, archi-réactionnaire, anticommuniste, qui assassinait les militants s'opposant à lui, parvint à acquérir une popularité croissante en menant une guérilla contre la présence des soldats israéliens au sud Liban. L'armée israélienne a finalement été contrainte d'évacuer le sud du Liban en mai 2000, après 22 années d'occupation. Eh bien, depuis, le Hezbollah est durablement installé à la frontière israélienne et est devenu l'un des principaux partis au Liban. Eh bien, on va s'arrêter là.